2023. Le vent souffle sur le Causses. Sous nos yeux s'étale un champ d'anorak, petite fleur colorée butinant le Larzac. Sous ces capes se cachent des militants, des militantes, nous sommes aux résistantes. La rencontre écologiste des luttes locales et globales. Pour l'occasion, Radio Larzac s'est associé à une dizaine de radios associatives pour couvrir l'événement et créer une radio éphémère, Radio Résistante. Rencontres, débats, conférences, tables rondes, micro-trottoirs et interviews, vous écoutez le créneau Radio Résistante. Aujourd'hui, nous voyageons entre les tentes du village associatif à la rencontre d'acteurs du changement. Le collectif de sauvegarde des terres de Gonesse, Alternatiba, la petite Liberté Librairie, le collectif de soutien kurde Serildan, et pour finir, l'association féministe Les Déculassés.
Nous allons vous présenter le collectif pour la sauvegarde des terres de Gonesse.
Donc c'est un collectif qui regroupe des personnes à titre individuel et des associations et qui lutte depuis l'année 2011 pour préserver 700 hectares de terres agricoles au nord de Paris. Ce sont les terres agricoles les plus proches de Paris, à 15 km à vol d'oiseau, et qui sont parmi les meilleures de France et d'Europe. On a plusieurs mètres de limon en dessous. Le maïs pousse facilement, sans aucun arrosage, etc. Or, comme vous voyez sur la carte, c'est bétonné tout autour, quasiment. Donc, on estime que c'est un îlot de fraîcheur à préserver pour les populations alentours. Et en plus, s'opposer à la bétonisation pour garder des terres agricoles à proximité de Paris proche dans la petite couronne de Paris, voilà. Donc on a mené plusieurs actions depuis des années, aussi bien des procès, plusieurs procès. Là on vient encore la semaine dernière de déposer une plainte au pénal contre la Société du Grand Paris pour avoir rasé une zone de... Comment on appelle ça déjà ? Une zone de compensation. Ils avaient dit qu'ils garderaient une friche pour les oiseaux, etc. Puis ils ont tout rasé, voilà. On a fait une ZAD en février 2021 qui a duré 17 jours avant d'être expulsé par les forces de l'ordre. Mais malgré tout, on continue à la fois. On a 3 réunions mensuellement. Une à Gonesse, enfin pas à Gonesse même, à Villers-le-Bel qui était juste à côté, pour les militants locaux. Une à la Bourse de Travail de Paris pour les sympathisants de l'Île-de-France. Et également, tous les derniers dimanches du mois, on se réunit sur le Triangle de Gonesse, donc à la fois pour montrer qu'on est toujours là, qu'on lâche rien, et que se mettre au courant les uns les autres. Alors, c'est pas toujours les mêmes militants qui passent, mais pour les dimanches habituels, il y a toujours au moins une vingtaine de personnes. Même le 30 juillet, là, on était encore 21. Alors qu'on avait déclaré à la préfecture 10 personnes, parce qu'on s'est dit, bon, le 30 juillet, il n'y aura personne. On était encore 21. Ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui viennent, c'est en fonction des disponibilités des uns des autres. Et de temps en temps, on fait une ZAD dimanche exceptionnelle, où là, il y a beaucoup plus de monde qui passe, quoi, voilà. Et on échange sur où en sont les recours juridiques, où en sont les actions diverses, comment on va préparer une nouvelle action, laquelle, comment on va interpeller les médias ou les élus ou tel ou tel. On a un problème puisqu'ils veulent faire une cité scolaire. Donc il y avait une gare qui était prévue pour le projet d'Europa City qui a été abandonné en 2019, qui devait amener 31 millions de visiteurs. Ce projet est abandonné. Le projet d'extension de Roissy, Terminal 4, a été abandonné aussi. Il n'y a aucune raison de mettre une gare en plein champ. Mais ils ne veulent absolument pas en démordre. Ils veulent absolument faire cette gare. Donc, le seul projet pour l'instant qu'ils ont trouvé, c'est de faire une cité scolaire avec 2600 enfants, enfin jeunes, du collège au post-bac. Et en fait, 400 élèves en internat, alors que c'est survolé toutes les deux minutes par un avion de Roissy ou du Bourget. Quelque chose d'absolument inadmissible, scandaleux. Voilà, donc on continue la bagarre et on pense faire un événement, une petite ZAD dimanche exceptionnelle, le premier dimanche d'octobre. Voilà. Alors, je m'appelle Michel Loup et moi j'habite la plaine de France Est, à une douzaine de kilomètres de Gonesse. Et Gonesse, c'est la plaine de France Ouest. Non, l'inverse, pardon, moi j'habite à l'ouest et Gonesse c'est à l'est, pardon. Et dans mon secteur, on s'est beaucoup battu aussi. Les années, moi j'y suis arrivée en 84, et toutes les années 84 à 2010, on s'est battu sur notre secteur pour préserver des champs aussi. Empêcher un tracé d'autoroute, de l'autoroute A16 qui consommait trop d'espace agricole aussi, lutte victorieuse. On a obtenu de la Commission nationale du débat public que ce soit notre tracé qui soit mis en œuvre pour consommer le moins de terres agricoles. À côté de chez moi, on a préservé 500 hectares en gros de terres agricoles aussi. Et donc toute cette lutte-là qu'on a menée de notre côté a permis que quand on a connu le projet de création de ce projet d'Europa City, on s'est dit mais enfin on ne peut pas laisser faire ça, c'est le seul hectare, enfin le seul terrain encore en terre agricole de tout ce secteur extrêmement dense, il faut qu'on se batte pour le sauvegarder, quoi, voilà. Et donc c'est comme ça qu'on s'est préoccupé de venir de l'autre côté de la plaine de France, à quelques kilomètres de chez nous, avec d'autres camarades militants pour sauver ces terres agricoles, voilà. Oui, alors on est en lien bien évidemment déjà avec le collectif contre la ligne 18, parce qu'on a exactement la même problématique et les mêmes ennemis, la Société du Grand Paris et le Grand Paris Express. Et la région Île-de-France. Donc déjà, ça c'est les deux collectifs qui sont vraiment côte-côte. D'ailleurs, vous voyez, on a plein de tracts qui sont communs. On a organisé plusieurs actions en commun, que ce soit des grandes réunions publiques ou des marches, comme celle d'octobre 21, où on a fait une marche venant de quatre coins de l'Île-de-France, qui était destiné à aller jusqu'à Matignon, mais on a été arrêté par les forces de l'ordre sur la place de la mairie de l'Hôtel de Ville de Paris. Voilà, donc on est en lien avec Val-Bréon, avec Thoiry, et plusieurs luttes également. Et au niveau local du Val d'Oise, Bernard Loup, qui est le président du collectif pour le Triangle de Gonesse, était également le président de Val d'Oise Environnement, rattaché à France Nature Environnement, qui regroupe une vingtaine d'associations de défense de l'environnement sur notre département. Donc là aussi, on est en lien avec plein de luttes locales contre la destruction d'un bois ici, la destruction d'espaces agricoles à tel endroit. Enfin, bon, dans notre département, on est en lien avec plein d'autres luttes. Et puis sinon, au niveau des autres luttes, alors on participe à la coordination des luttes d'Île-de-France. Et après, on a des liens aussi avec Notre-Dame-des-Landes, puisqu'on était leur invité d'honneur. Alors là, je me rappelle plus en quelle année, 2014, je crois, peut-être, je sais plus. En quelle année, on était invité à Notre-Dame-des-Landes. on est en lien avec nos amis de Bure. Voilà. C'est... Bon, on est allé aux bassines aussi. Enfin, voilà, on fait la coordination des luttes puisque on sait très bien que tout ça derrière, c'est le monde économique, le capitalisme qui a intérêt à bétonner partout tout ce qui détruit la planète, hein, le climat, etc. Et enfin, nous, on est attachés à faire le lien aussi avec les luttes sociales, puisque, bon, là, par exemple, il y a évidemment maintenir l'agriculture, mais aussi se battre pour que les gens des villes alentours aient un îlot de fraîcheur à proximité, quoi. Voilà, c'est aussi faire en sorte qu'il y ait de la respiration possible, et que y ait pas que les gens ne crèvent pas de chaud dans leur maison tout le temps parce qu'on a tout bétonné autour, quoi. Voilà. Voilà, donc on essaye d'aller un petit peu soutenir les camarades en lutte et que eux viennent nous soutenir de temps en temps aussi. Voilà.
Bah du coup moi c'est hop là, je suis à Youth for Climate et en fait je viens aussi du coup à toutes les réunions de la coordination des luttes locales d'Île-de-France, donc ça a été dit un petit peu plus tôt, mais c'est un ensemble de collectifs surtout contre la bétonisation et contre le Grand Paris Express en Île-de-France. Donc il y a les terres de Gonesse, les Zaclay, enfin pardon, non à la ligne 18 qui était à l'origine de la ZAD de Zaclay. Il y a aussi, par exemple, le collectif des Jardins d'Aubervilliers qui a été assez médiatisé, etc. Enfin, il y a pas mal de collectifs contre la bétonisation. Et en plus, il y a aussi des collectifs alliés qui ne sont pas spécifiquement sur une lutte locale, mais qui viennent pour aider et pour médiatiser aussi toutes ces luttes locales en Île-de-France. Donc, par exemple, Alternative à Paris et Youth for Climate sont des collectifs alliés de ce type-là. Donc, nous, du coup... On est surtout là pour aider sur toutes les luttes locales et se battre contre le Grand Paris de manière générale et aussi les JO de Paris 2024 qui arrivent dans un an très rapidement. Parce qu'en fait, les JO, c'est aussi une grosse excuse pour bétonner énormément et accélérer ces travaux du Grand Paris Express. Donc le Grand Paris Express, c'est un projet pour étendre en fait la ville et construire plein de transports en commun un petit peu inutiles. Parfois on les voit passer dans les champs justement qui détruisent énormément d'espaces agricoles, d'espaces naturels, et c'est justement ce projet du Grand Paris qui est accéléré par les JO. Parce que les JO vont être exigeants d'un point de vue de transport en commun, vont être une excuse un petit peu pour créer de nouvelles infrastructures en disant que c'est un événement exceptionnel, donc on va bétonner énormément pour créer des grosses infrastructures, et au final c'est des infrastructures qui vont rester et qui vont handicaper en fait la vie des habitants autour pendant des décennies. Donc voilà, et là en ce moment on lutte beaucoup à Youth for Climate contre les JO parce que ça arrive très bientôt, il y a énormément de problèmes sociaux et écologiques autour de ça. Déjà il y a énormément de projets qui sont très problématiques au sein des JO en fait. Tout premièrement, on peut par exemple parler des Jardins d'Aubervilliers. Donc là il y a une lutte qui a gagné. Ils voulaient construire le solarium en fait des JO au jardin d'Aubervilliers, à la place des jardins. Donc les jardins, c'est vraiment un endroit de cohésion sociale où il y a énormément de gens des quartiers populaires à côté qui viennent pour jardiner ensemble, et c'est un espace vert incroyable. Et ils ont commencé à les détruire, mais la lutte a été gagnée contre ce solarium. Sauf que, justement, il y avait pas seulement un solarium, il y a aussi une gare qui va être construite. Et là, cette gare qui devient inutile parce qu'il n'y a plus de solarium à desservir, elle est toujours construite et maintenue. Donc, ils sont toujours en train de se battre contre ça. Mais c'est pas fini. Et sinon, il y a aussi beaucoup d'autres projets au sein des JO. Par exemple, ils sont en train de construire un échangeur autoroutier juste à côté de l'école Pleyel. Donc c'est en Seine-Saint-Denis. Et c'est vraiment juste à côté d'une maternelle et d'une primaire. Et ils construisent ça un échangeur autoroutier pour pouvoir desservir les JO, alors que c'est complètement aberrant. C'est déjà un quartier qui est très pollué et ils font ça juste à côté d'école, donc c'est des enfants qui vont être très exposés à l'asthme, etc. Au-delà de ça, en fait, les JO, c'est tout simplement une aberration sociale. On voit déjà les conséquences. Il y a déjà des sans-abri qui sont expulsés de Paris. Il y a aussi des étudiants qui vont être expulsés de leur logement au Crous pour pouvoir les construire, juste pour pouvoir accueillir les JO. Donc, même si on est très bien sûr conscient qu'on n'annulera pas les JO et qu'ils vont bien sûr se faire, il y a quand même beaucoup de luttes sur lesquelles il faut parler parce qu'il ne faut pas laisser faire ça. Et il y a aussi cette idée que même si les JO se feront, même s'ils auront des conséquences, il faut absolument débattre maintenant des problèmes que ça cause pour pouvoir éviter au maximum de reproduire ça dans le passé, dans les autres pays. Voilà.
Merci Mathilde et Michel, c'était Radio Résistance.
Et maintenant, nous allons vous présenter Alternativa Paris.
Donc, je vois que tu es sur un stand aux couleurs jaune et verte avec une main et un cercle autour. Est-ce que tu peux donc nous présenter cette association Alternativa Paris ?
Yes. Alors en fait, Alternativa Paris, c'est un mouvement de désobéissance civile non violente. Qui de base c'était Alternativa Paris et ANV COP 21 Paris. Donc en fait c'est un peu la jambe droite et la jambe gauche d'un même mouvement. ANV COP 21 c'est plutôt le nom complet c'est Action Non Violente COP 21. Donc qui est né du coup en 2015 suite à aux accords de Paris. Qui est plutôt la partie désobéissance civile, action directe. Du mouvement. Et Alternativa, c'est plutôt la partie promotion des alternatives. Et aujourd'hui, on s'appelle plutôt Alternativa Paris pour pas faire de confusion. Enfin, c'est beaucoup plus simple en termes de communication. Voilà. Alors, Alternativa Paris, on a plein de petits groupes de travail. On fait vraiment beaucoup de choses. Mais notamment, on fait des actions de masse, plutôt des désobéissance civile, où en fait, l'idée, c'est de dénoncer les premiers pollueurs. Donc par exemple Total Energy, Amazon, etc. En fait de lutter contre des grands projets inutiles et imposés. On promeut aussi les alternatives, donc on fait des camps climat. Là par exemple on va avoir un camp climat en octobre à Paris dans nos locaux qui va durer plusieurs jours. Ce sera un peu comme ici avec des formations, des ateliers, des conférences, etc. Évidemment une partie festive un peu plus conviviale. On a écrit un bouquin, enfin un groupe de travail d'Alternativa Paris a écrit un bouquin là qui est juste là, Notre Grand Paris, qui est sorti en 2022. Et en fait l'idée c'est d'imaginer qu'est-ce que ce serait l'Île-de-France selon un peu nos idéaux, les alternatives qu'on promeut, etc. Donc ça parle de logement, ça parle d'alimentation, de politique, d'urbanisme, etc. On a un atelier sérigraphie aussi pour les personnes qui ont plus la patte artistique. Donc là, par exemple, les drapeaux qu'on voit, ça a été fait par notre atelier sérigraphie. Du coup, on imprime des t-shirts, plein de choses trop chouettes avec ce genre de motifs là, par exemple. Ça, c'est l'atelier sérigraphie. Des petits carnets avec des motifs qui ont été dessinés par nos militants et militantes. Voilà, mais vraiment pas mal de choses. C'est assez vaste et tout le monde y trouve sa place.
Si on a envie de vous rejoindre ou de vous soutenir, comment est-ce qu'on peut faire ?
Eh ben, vous pouvez nous contacter. On fait des réunions assez régulièrement. Enfin, c'est pas des réunions, c'est plutôt des petites soirées d'accueil où on explique un peu tous les groupes de travail qu'on a. On les présente et puis on présente aussi de manière générale nos valeurs, nos revendications, notre cadre. Donc ça c'est une bonne façon de nous rejoindre. Faut nous regarder aussi sur nos réseaux sociaux. En fait Alternativa Paris on n'est pas une asso qui fonctionne par adhésion, c'est-à-dire qu'on y entre et on y sort un peu comme on veut. C'est vraiment très libre, on filtre pas tellement. Les gens se sentent libres d'aller et venir et ils n'ont pas un quota d'heures à respecter, ils n'ont pas Enfin bon, voilà, c'est assez libre. Du coup, moi, c'est Cannelle. Je suis militante à Alternative à Paris. Avant, j'étais militante à Alternative à Lille. J'ai déménagé, donc maintenant, depuis la rentrée, je suis Alternative à Paris. J'ai 20 ans. Je suis militante depuis mes 16 ans à peu près. Et moi, la lutte, ce que ça m'apporte, c'est... Déjà, c'est quelque chose qui est hyper enrichissant. Moi, par exemple, je suis pas très scolaire. Et j'ai eu la sensation, en fait, de m'être beaucoup plus formée à la vie, en général, au sein des milieux militants, plutôt qu'à l'école. Et puis même, pour mon CV et tout, c'est quelque chose qui m'a beaucoup formée. Donc ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte aussi énormément en termes... sur le côté social, c'est-à-dire... en fait, je tisse des liens très forts avec des personnes. Aujourd'hui, mon entourage est quand même pas mal constitué de personnes militantes ou issues de ces milieux-là. Et du coup, c'est des personnes qui sont en accord avec mes valeurs. Donc pour moi, c'est hyper important. Mais ça m'apporte aussi... en fait, c'est ce qui m'anime en général, le militantisme. Quand j'ai commencé à militer, quand j'étais du coup au lycée, j'étais en première, je crois. À partir du moment où j'ai commencé, c'est un peu devenu ma raison d'être. Et voilà, j'ai très vite souhaité m'orienter professionnellement vers le milieu associatif, etc., pour continuer de lutter et pas travailler dans des vieilles entreprises pourries. Donc voilà, enfin, c'est quelque chose qui m'anime, c'est hyper important pour moi.
Bon, alors on connaît la petite agitée graphisme, il y a aussi la petite agitée librairie, même si ça doit changer de nom. Salut Sylvain.
Salut.
Je dois dire d'abord quel plaisir de te retrouver sur ces rencontres Les Résistantes 2023, puisque faut le citer, tu es sur Radio Résistante, également sur RDIWA, également sur tout un tas d'autres radios. Sylvain, d'ailleurs, tu étais dans le DIWA. T'as déménagé et tu tiens ce qu'on appelle, avec Mathias d'ailleurs, tu nous présenteras tout à l'heure si tu veux bien, une librairie nomade. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de ce projet ?
Et bah ouais, grave, déjà ça s'appelle encore La Petite Agitée, c'est parce que quand même ça s'est créé où il y avait Théo Tiffen qui était quand même comparse, même partie prenante. Enfin, on a créé un projet plutôt de bibliothèque ambulante au départ. Avec quelques personnes dont Théotif et dont Mathias. Bibliothèque, info kiosque et quelques bouquins de librairie. Mais du coup, ça s'est plus ou moins arrêté. Ça n'a pas duré très très longtemps, cette histoire. Et au final, moi, je continue un peu avec la question de la librairie parce que je faisais ça depuis quelques années, mais plutôt des petits bouquins que je trimballais en valise, en manif. Puis après, j'avais tenu des chambres d'hôtes. J'avais une petite librairie aussi anarchiste dans des chambres d'hôtes que j'avais récupérées avec un collectif de potes. Du coup, j'ai poursuivi un peu cette histoire, mais moins sur la question bibliothèque, ça m'intéressait moins, mais plutôt sur la question des bouquins, actant aussi du fait qu'il y avait plein d'infos kiosques un peu partout, mais peu de livres, et que je trouvais ça intéressant de pouvoir continuer par le biais des livres. Et donc c'était un travail avec des petites maisons d'édition, de fonctionner en direct avec elles. Du coup, des maisons d'édition à Lyon, à Grenoble, à Marseille au départ, 2-3. Et à force de vendre des livres, comme il y a vraiment un projet qui est non économique personnel, dans le sens où il y a part d'argent qui est fait avec les bouquins, jusqu'à maintenant on s'est jamais défrayé, payer des bières, payer à manger, il y a vraiment un truc de les bouquins doivent servir à pouvoir acheter des bouquins et avoir un fonds courant de livres pour faire de la propagande, rencontrer du monde, diffuser des idées. Du coup voilà, ça a grandi. Au départ, s'il y avait 10 livres, aujourd'hui il y a peut-être 200 ouvrages un peu... référencé, ça commence à être une belle table de presse, une belle table de librairie, mais je pense qu'on arrive un peu à la fin au maximum de ce qu'on veut faire avec les bouquins, parce qu'on a déjà 8 mètres de table, et en vrai plus en termes de librairie itinérante, ça n'a plus trop de sens. Du coup voilà, on essaye de se restreindre avec Mathias. Du coup, il y a un comparse qui m'a rejoint il y a quelques années, et avec tous les deux on tient ce truc là de bouquins. On sort la librairie quelques fois dans l'année sur des moments militants, des fois sur des moments festivaliers aussi pour pouvoir rencontrer des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu engagé, militant, de gauche, je sais pas, mais aussi se retrouver avec des personnes lambda et pouvoir discuter livres, discuter plutôt politique par le biais des livres.
Et tu as parlé plusieurs fois d'une opposition avec un aspect bibliothèque, je comprends pas.
C'est que la question de la bibliothèque demanderait à avoir une présence régulière chaque semaine, aller dans des endroits, avoir des bouquins, que les gens puissent rentrer, les sélectionner, les emprunter et repartir. Et du coup, la bibliothèque, c'est de l'emprunt de livres. Et du coup, pour ça, ça demanderait d'avoir une présence beaucoup plus régulière. Et ce qu'on n'a pas, en vrai. On n'a pas le temps. On a des projets économiques, par ailleurs, pour gagner notre croûte. Et ça, c'est voilà, ça demanderait en tout cas d'avoir... Ça pourrait être pensable, hein, mais plutôt, j'ai l'impression que nous, ça nous fait moins... Ça nous porte moins, on prend moins le temps de ça en tout cas. Quoi.
Alors, tu as cité le bon mot, Sylvain. En fait, vous, ce qui vous intéresse, c'est la propagande, tu l'as dit. Mmh. C'est de propager des idées. Donc, effectivement, vous bossez, vous avez vos revenus, vous vivez d'autres choses que de ça. Donc, c'est du pur bénévolat, du pur temps libre. Comment vous choisissez ces bouquins? Pourquoi ceux-là? Et tu propages quoi, finalement, comme idée?
Déjà, le choix, c'est de travailler avec des petites maisons d'édition. Je pense que tous les dons lient énormément avec Mathias, mais qu'on fait le choix de propager et diffuser des maisons d'édition qui sont... Ça veut pas dire qu'elles sont pas vendues en librairie, qu'on les trouve pas en librairie. Elles vont être un peu cachées dans les rayons et tout ça. Du coup, on choisit de les rendre hyper visibles et du coup, de faire éloge de ces petites maisons d'édition confidentielles, plus ou moins confidentielles. Il y en a qui sont un peu plus connues, comme La Fabrique ou Cambourakis, mais il y en a vraiment... Je pense qu'à part nous, il n'y a personne qui connaît ces maisons d'édition. Enfin, les nombres de gens qui les connaissent sont très peu nombreux. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est une sélection qu'on a lue. Du coup, il y a toujours un quart des bouquins qui sont en nouveauté. Donc on est toujours en train de lire et de bouquiner pour essayer d'avoir savoir de chacun des livres pourquoi on les défend et pourquoi on en parle.
Ça veut dire que ouais, vraiment, vous pouvez parler de chacune bouquin, des références. Ouais, ouais.
N'importe quel bouquin, tu peux le pointer du doigt. Et en tout cas, on en a plus que quelque chose à dire. Quoi. En général, on le défend avec les tripes et avec le cœur. Un peu, et après la tendance, bah clairement, tout le don se revendique quand même de ouais, pulsion de cœur anarchiste. Voilà, je pense que Mathias il peut aussi beaucoup se référer au marxisme, un peu à l'économie. Il a des sujets de prédilection qui sont moins les miens. Moi, je vais plutôt aller chercher dans la poésie, dans le roman. Voilà, mais je pense en tout cas, il y a pour tous les deux un truc un peu de trouver des manières d'animer la flamme ou de la préserver, d'avoir des formes de transmission aussi par le biais du livre, d'histoire passée. Parce que en fait on s'en inspire aussi, et je pense que le côté roman et poésie, c'est aussi une manière un peu d'être pris fort par des situations romancées, mais qui en fait peuvent nous ramener aussi à nos propres quotidiens, nos propres vécus, et aussi pouvoir les sublimer aussi à ces endroits là et pas être juste dans le truc de bon, c'est beau, hein. Moi j'adore l'histoire des vaincus, cette histoire qui ne gagne jamais véritablement, mais en fait ça veut pas dire qu'elle a pas sa force et sa puissance en soi. Mais que aussi pouvoir s'imaginer ce que ça pourrait donner si à des moments justement on redonnait des coups, on en donne, mais aussi si on était en capacité de conquérir des territoires et de pouvoir y mettre un peu de nos formes d'organisation dedans. Qu'est-ce que ça pourrait donner une société, un monde où il y aurait des multimondes, et quelle organisation, de quelle manière on pourrait s'entraider, de quelle manière on pourrait se combattre aussi, se quereller, conflictualiser.
Donc t'as aussi des bouquins, j'allais dire, un peu plus méthodologiques, techniques, du coup
Méthodo, je sais pas, je pense que tous les dons seraient un peu gênés par un aspect très programmatique de dire bon bah pour gagner il faudrait faire ça comme ci, comme ça, comme ça.
Pourquoi
Parce que, en fait, je pense que d'imaginer qu'on offre des cartes du territoire, qu'on offre un peu de la théorie, des manières d'imaginer quel type de société ou quelle manière de s'organiser, ça a son intérêt. D'annoncer un programme précis de quelle manière il faudrait procéder, je pense que c'est aussi parce qu'on met nos forces à l'épreuve des luttes sociales ou des mouvements ou de rencontres telles que celle-là, que ça donne à voir un peu dans comment vers quoi aller. Enfin, je pense qu'il y a une alliance un peu entre vouloir dessiner des chemins et en même temps vouloir se faire prendre par la spontanéité, l'improvisation de ce que pourrait ressembler une émeute, une révolte, un moment révolutionnaire comme ça. Enfin,
ouais, du coup, vous n'avez pas une démarche dogmatique, j'emploie le gros mot, ou de vouloir éduquer les gens à aller dans un sens, quoi.
Ouais, non, oui, non. Je pense pas qu'on éduque des gens. Enfin, je pense qu'on transmet, on est passeur de mots, quoi, ou passeur d'idées, ou... Oui, je pense,
ouais, mais tu pourrais tellement passer toujours les mêmes idées que bah, vous deviendriez, je sais pas, la librairie nomade, certes, mais de tel courant de pensée.
C'est tellement flou et ouvert, ces histoires de courant de pensée, que ce soit dans la pensée anarchiste. J'ai l'impression qu'il y a autant d'anarchie que de manières de penser l'anarchie que de gens qui se réfèrent à l'anarchie. Et même les courants marxistes sont hyper nombreux et tout ça. Du coup, j'ai l'impression que. Puis les courants de vie, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'on est touché et tenu par. par trop de choses pour pouvoir se cantonner à un dogme ou une manière d'entrevoir la lutte ou le monde. Ouais, je pense que c'est trop complexe et nous-mêmes on n'a aucune vérité à apporter là-dessus, juste on est un peu paumé et du coup on cherche à être paumé ensemble et voir si on trouve des petites réponses quoi, ou des petites solutions minimum quoi. Enfin, on cherche à être paumé ensemble, on cherche entre paumés à pouvoir avancer un peu quoi. Enfin, je sais pas. Mais...
vas-y, parle pour toi. Qu'est-ce que ça t'apporte de lire tous ces bouquins et de les transmettre ?
Ouais, paumé que je suis. Je pense qu'à plein des égards, il y a une histoire un peu d'amis ou de compagnonnage avec des amis qui sont pas réels quoi. C'est ces bouquins là qui peuvent, certains que je relis, qui peuvent m'accompagner durant mon existence ou qui sont venus poser des petits socles à des endroits. Je pense aussi qu'à des endroits c'est une perte en fait. En vrai, il y a aussi un rapport à aller lire, c'est aussi pas être dans le monde tel qu'il est. La lecture c'est aussi déjà perdre une prise du monde, enfin perdre quelque chose au monde, je pense.
Ah ouais.
Bah en tout cas je vois qu'il y a plein de gens chez qui le livre n'existe pas. Il y a eu plein de sociétés chez qui le livre n'existait pas et je suis pas sûr qu'elles étaient en perte de quelque chose forcément. C'est pas forcément l'invention ultime ou le recours ultime à exister. Mais quand même, enfin moi en tout cas ça m'apporte du bien. Mais je pense qu'à des autres endroits ça mode de la spontanéité aussi. Parce que j'ai l'impression que je suis toujours. J'ai beau me préparer, lire plein de choses, me dire que bon, ok, il faudra faire ça, ou on pourrait s'imaginer ça, ou on pourrait se projeter comme ça. Bah n'empêche que quand je le vis, bah souvent j'ai un truc un peu de, il y a de la peur, il y a de oh, merde, et là putain, bah en fait il y a enfin quelque chose qui est en train de se passer. Bah comment réagir ? Je me sens pas très spontané comme personne.
Non, mais en
et
fait,
peut-être la question du livre m'ôte une partie de ma spontanéité de juste la.
En fait, t'es un vrai anard. C'est un ni dieu ni maître. Un bouquin pourrait tellement t'orienter ou t'enfermer dans quelque chose que tu le rejettes aussi. Quoi.
Ouais, je sais pas, en tout cas j'aimerais pas me dire que ça soit la seule manière à la fois de comprendre, d'entendre ou de réagir au monde. En tout cas c'en est une, c'est un chemin et nous en tout cas c'est à cet endroit là qu'on a bien rentré en discussion. En tout cas c'est un endroit de facilité quoi, mais il y en a mille autres.
Bon, sinon aujourd'hui t'es basé dans le Puy-de-Dôme je crois.
Ouais.
Mathias
à Amber dans le Puy-de-Dôme quoi.
À Amber dans le Puy-de-Dôme. Du coup comment est-ce que vous choisissez les lieux où vous vous posez, comme ici plateau du Larzac, les Résistantes?
Ouais, je pense que c'est pas toujours nous qui choisissons. Des fois, on nous refuse aussi de dire oh non, c'est un truc commercial. Ouais, bon, pas tellement, mais comment dire. Mais oui, effectivement, il y a un échange d'argent, quoi. Du coup, il y a des endroits où on aimerait bien être et qui nous disent bah non, plutôt on est que sur du prix libre ou des choses non commerçantes entre guillemets. Ça s'entend. Et il y a d'autres endroits où on se dit ah bah tiens, on n'a pas jamais pensé à là, mais c'est des gens qui nous ont invités. Genre là, on nous aurait invités pour cette année à aller faire l'Adra Festival, un truc complètement improbable quoi. Bon, finalement, on n'y est pas allé, mais c'est
enfin. Ah ouais, ça aurait été curieux de savoir si on vous achetait des bouquins.
Bah, je pense que ça aurait très bien marché. Après, je pense que bon, moi, plus que Mathias, j'étais un peu gêné avec cet endroit là, mais ça aurait pu être chouette. Bon, finalement, on a choisi d'autres trucs. Où il y a aussi un type qui nous a invités pour un énorme festival de bal folk dans le Puy-de-Dôme où il y aurait plusieurs milliers de personnes. Bon, en vrai, ça pourrait être improbable de retrouver avec une librairie anarchiste sur un festival de balfolk où les gens viennent danser des musiques trad et se retrouver avec une librairie un peu comme ça. Bon, je sais pas. En tout cas, ça serait des endroits surprenants où se poser. Mais plutôt, ouais, on se laisse aller au gré des invitations et parfois on force un peu la main en disant « Coucou, on est là. On pourrait se faire inviter, non ?»
Et pour nous parler de votre fonctionnement, du coup, vous achetez tous les bouquins d'avance, ils vous sont avancés par les maisons d'édition, c'est la partie financière, hein, on a bien compris que c'était à but non lucratif, mais du coup, comment vous faites tourner ce stock ?
Oui. Et bah, au départ, peu de bouquins, du coup, peu de sous. Donc, quand tu travailles avec des éditeurs, soit une librairie, et du coup, t'as, on va dire le monde de l'édition qui est à peu près prend 50% du prix du livre, donc ça concerne la personne qui écrit le livre, éventuellement le traducteur, traductrice, l'imprimeur, l'imprimeuse, le correcteur, la maison d'édition, etc. Donc ça, c'est 50% du prix du livre. Et l'autre 50% se partage à 30% avec le libraire officiel, et les 20% sont ces intermédiaires qui sont les diffuseurs et les distributeurs, ceux qui gardent et qui stockent les livres dans les dépôts, et ceux qui les diffusent en allant voir les librairies en disant « achetez tel livre, c'est super, machin », et qui diffusent des maisons d'édition qui... Et du coup, bah, nous, du coup, dans notre cheminement, c'est qu'on fonctionne ni avec distributeur ni avec diffuseur, et on va directement contacter les maisons d'édition. Du coup, il y en a certaines qu'on connaît depuis 6-7 ans, donc il y a presque un lien d'amitié, ce serait un grand mot, peut-être avec certaines, mais en tout cas un lien de connivence et de ouais, sensibilité commune, là, un peu. Et du coup, on n'achète qu'en direct, on ne prend pas de dépôt. dans le sens où si ça a pris du temps à grossir, c'est parce qu'au départ il n'y avait pas de thunes, quoi. Au départ j'avais mis un peu de thunes de moi-même et après j'ai pu me les rembourser. Parce que du coup, quand on achète les bouquins, on a entre 30 et 50% du prix libraire. Du coup, c'est cette marge aussi qui nous permet de racheter des livres, ou nous permet d'offrir des livres, de faire de la gratuité aussi quand les gens n'ont pas de thunes, ou de faire des prix de coûtant. Donc dire, bah, on peut t'enlever 40% du prix du livre si ça te va. Donc si t'as un bouquin à 20 euros, bah, tu vas le payer 12 euros. Et si c'est encore trop cher, bah, prends-le gratuitement. Et de toute façon, il y a d'autres gens qui payent et ça marche très bien comme ça. Mais du coup, voilà, plutôt en direct. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un fonds de librairie de 10-15 000 euros, qui fait que bon, bah, on a ses bouquins. Je pense que maintenant, on est arrivé au bout de... On n'a plus besoin de faire plus de thunes. On a un fonds de roulement qui fait qu'on n'est pas tout le temps en flux tendu à devoir acheter des bouquins chez les éditeurs, éditrices. Et du coup, voilà. Maintenant, on se dit, bon, bah, peut-être pour les premières fois, on va commencer à se défrayer ou nous se payer à boire et à manger quand on fait des festivals. Là, on commence à se poser cette question-là. Enfin, du coup, de se dire, vas-y, on va faire ça. Et par ailleurs, se dire, bon, bah, en fait, peut-être qu'on se dit, on a un plafond, c'est 15 000 euros, on va avoir toujours ces 15 000 euros de livres pour ce fonds de roulement. Et derrière, pouvoir tout ce qui se fait en plus, s'il y a 2-3 000 euros qui se font par an, en plus de pouvoir faire des dons pour des luttes ou pour du soutien et tout ça. Ça pourrait être trop bien, bon, à voir. En tout cas, c'est des petites idées qu'on a eues avec Mathias en discutant tous les deux.
Est-ce que tu as envie de nous citer quelques grandes références de cette librairie ?
Bah ouais, mais après, elles n'arrêtent pas de bouger, du coup... Je vois ce que je peux défendre avec les tripes aujourd'hui. Demain, ça sera un peu plus compliqué, mais en tout cas, il y a un échange épistolaire qui s'appelle Lettre à Samira sur un couple de Syriens qui ont été séparés par la guerre. Elle est morte et lui continue à lui écrire comme si elle était encore vivante. Et ça traite de la question de l'exil, de l'oubli, de la perte, du deuil et tout ça. C'est hyper, hyper beau. Donc, des lettres qui vont que d'un côté, puisqu'elle elle a disparu. On ne sait pas si elle est morte ou pas, mais de fait, ça fait des années maintenant. Ça, c'est un bouquin qui m'a énormément touché ces derniers temps. Il y a le bouquin La volonté de changer de Bell Hooks, un peu sur la question de comment construire des masculinités en dehors de rapport viril ou en dehors de trouver un peu d'autres manières de construire des formes de masculinité. Des livres, Mathias, S'occuper de son sperme, qui est un petit bouquin qui vient parler des différents types de contraception masculine. Et ça aussi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un truc qui porte là-dessus. Et du coup, on est content de pouvoir avoir des fois le slip ou l'anneau à montrer aux gens. Bah voilà, c'est comme ça qu'on peut se contracepter. Ça, c'est un peu des manières de pouvoir faire du travail à notre place en tant que mec. En théorie politique, quoi. Il y a Caliban et la sorcière de Federici, qui est une marxiste féministe qui a beaucoup développé la question du travail domestique. Aussi hyper chouette, qu'on aime beaucoup défendre. Tout un tas de livres, Radio Eat Yourself sur comment faire sa radio pirate, des trucs sur l'autodéfense numérique. Tout un tas de bouquins, tout un tas de romans aussi sur la question afro-américaine, qu'est-ce que c'est d'être noir, qu'est-ce que c'est d'être noir aux États-Unis. Et quand même parler de l'histoire aussi, bon, des bouquins sur la Makhnochina, sur Makhno qui était un anarchiste dans les années 20 en Russie, que hyper bien aussi. Etc. etc. etc.
Waouh. Du coup, comment on vous contacte et on vous invite ? Est-ce qu'on peut vous suivre, j'allais dire, sur un réseau ?
Ouais, non, bonne chance. On n'a pas de. Du coup, on s'appelle encore La Petite Agitée parce que c'est l'association que Tiffen Théo a créée, mais que
Tiffen qui est maintenant a dit avec de la sérigraphie sur La Petite Agitée. Si on l'appelle elle, on peut t'inviter toi.
Et bah en tout cas, ouais, si vous l'appelez elle, il y a moyen de trouver notre numéro de téléphone. Mais sinon, on n'a pas de site internet. On a une adresse mail, mais je me rappelle même plus laquelle c'est.
Et comment on vous trouve, bordel ? Mathias, allez, viens.
On nous trouve pas. On tombe sur nous. Rien de plus. Et c'est ça qui est plutôt chouette. Ça nous permet beaucoup de liberté. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est présent, on a envie d'être présent et pleinement présent. Et on ne s'enferme pas dans nos obligations parce que, comme je suppose Sylvain l'a dit, de toute façon, on le fait ça un peu par plaisir aussi. Et c'est comme ça que ça marche pour nous.
Bon, bah alors voilà. Bonne chance pour trouver la petite agitée librairie nomade et anarchiste. Merci Mathias.
Merci à toi.
Et merci Sylvain.
Merci, gros bisous et vive RDIWA quoi. Et la radio libre. Et radio résistante.
On est sur le stand des Déculassés. C'est une asso féministe qui est basée vers Montpellier, à Grabel, au nord de Montpellier. où on essaie de rendre les gens plus autonomes en mécanique.
10 ans à bourlinguer, 100 000 km passés. 10 ans à bourlinguer, 100 000 km passés. Change ta courroie de distrib pour pas tout faire sauter sur le pont. Sous le capot, je gère mon auto sur le pont. Sous le capot, sans mécano macho. Et puis tous les 20 000 faut vidanger tes huiles. Et puis tous les 20 000 faut vidanger tes huiles. Gasoil, huile et air, trois filtres font la paire sur le pont. Sous le capot, je...
L'idée, c'est quand même de déconstruire les stéréotypes de genre dans le domaine de la mécanique auto. Et du coup, on s'adresse essentiellement aux femmes et aux minorités de genre. Et on organise des ateliers d'initiation à la mécanique où on apprend comment marche un moteur, pourquoi faire ses niveaux, comment changer une roue, faire sa vidange, changer les plaquettes, les disques, etc. Et du coup, on devient plus autonome, on est à l'aise dans l'entretien de nos voitures, on fait des économies, on se fait moins prendre pour des connes dans les garages. Et puis c'est quand même un moment chouette et ça fait expérimenter aussi la mixité choisie de genre pour beaucoup de personnes. Et malgré tout, la voiture, c'est quand même trop bien parce que ça touche tout le monde. C'est vraiment... tous les milieux sont concernés.
Soupapeuse et piston pour faire la combustion. Soupapeuse et piston pour faire la combustion. Boum boum, grosse explosion, on fait avancer le camion auto. Vago camtar, tu mécaniques peinard auto. Vago camtar, t'es toujours en retard. Mes plaquettes, je les ai check sans aucun mec 6-7. Mes plaquettes, je les ai check sans aucun mec 6-7. Drainage d'urgence.
En général, c'est assez mal vu quand on parle de voiture dans les événements écolos, c'est tout de suite, mais ah, tu prônes un monde de tout voiture. Alors là, l'idée, c'est pas tout à fait ça. Bon, on est au courant quand même qu'il y a des voitures qui continuent de circuler. Hein, donc... Et a priori, tout le monde est arrivé en voiture à cet événement quand même. On est au plein milieu du Larzac. On a fait un petit stand avec plein de pièces auto et d'outils. Et du coup, le jeu, c'est d'essayer de reconnaître quelles sont ces pièces et les nommer. Donc on a des petits papiers, il faut remettre le nom des pièces avec les pièces qu'on voit. Et c'est plutôt une entrée pour parler mécanique.
Molette. Là, clé plate, là, clé à pipe, là, courroie de distribution, c'est ça la courroie d'accessoire et ça la courroie de distribution, et joint de culasse.
Sur ton stand, il y a des flies de la tenaille, vas-y, est-ce que tu nous en dirais pas quelques mots ?
La tenaille, c'est quoi ? C'est un festival féministe des savoir-faire techniques. Et du coup, on va un peu plus loin de la méca auto parce qu'on essaie de valoriser tous les savoir-faire techniques. Mécanique auto, électronique, électricité, tronçonneuse, mécanique vélo, informatique, zinguerie, céramique, etc. Une série d'ateliers, ça se passe sur 10 jours. Du 23 septembre au 1er octobre, autour de Montpellier.
Et pour rester badass, jamais sans mon atlas. Et pour rester badass, jamais sans mon atlas. Pas besoin de GPS, je tondu comme une déesse. Pas besoin d'être un télo, ni de gros biscotto. Pas besoin d'être un télo, j'autotune ma vago. Les mains dans le cambouis, je me fous de ton avis. Les mains dans le cambouis, je me fous de ton avis. T'es pas mon professeur, je connais le moteur par cœur.
Alors le groupe Cyril Dan, il existe depuis un moment. Nous, on l'a rejoint en cours de route. Je pense qu'il a été constitué en majorité par des personnes qui connaissaient déjà la lutte ou qui étaient déjà parties au Rojava. C'est un gros collectif. Nous, on ne connaît pas encore toutes les personnes qui le constituent. Nous, on a rejoint dans notre ville, et donc du coup, il y a plusieurs villes en France, en Belgique, en Suisse, qui en font partie.
Alors du coup, la révolution qui est au Kurdistan, et du coup, le territoire libéré, il y a un territoire qui est libéré qui s'appelle l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie. Du coup, c'est au Rojava. Rojava, ça veut dire ouest en kurde. Et en fait, ils l'ont appelé comme ça parce qu'il y a différentes diasporas sur place. Du coup, ils mettent en place ce qu'on appelle le confédéralisme démocratique. Donc, c'est une idéologie qui a été développée notamment par le leader de ce mouvement qui s'appelle Abdullah Öcalan, qui est emprisonné depuis plus de 24 ans et en isolement total. Et il a notamment écrit des manifestes, 5 manifestes qui s'appellent Manifeste pour une civilisation démocratique, dans laquelle il analyse la civilisation capitaliste et comment faire en sorte de créer une société alternative. Il a énormément été inspiré de beaucoup de théories politiques, anarchistes, socialistes, et notamment beaucoup de Murray Bookchin, qui parle d'écologie sociale et de municipalisme libertaire, qui a dit la phrase « La domination de l'homme sur la nature découle de la domination de l'homme sur l'homme » pour dire que tu ne peux pas faire de socialisme sans penser à l'écologie, et tu ne peux pas être écolo si tu ne penses pas à la lutte des classes. Et Abdoulaye Öcalan, il reprend cette phrase pour dire que la domination de l'homme sur la nature, elle découle de la domination de l'homme sur l'homme et de la domination de l'homme sur la femme, et que sans lutte antipatriarcale, on ne pourra pas créer une société démocratique, radicale, alternative. Et du coup, nous, on s'inspire beaucoup de cette idéologie qui est mise en place là-bas, au Rojava. Et on trouve que le confédéralisme démocratique, c'est une solution adaptée pour la crise mondiale, à la fois climatique et sociétale. Et on pense que c'est quelque chose à développer ici. Donc on parle de cette idéologie et comment la construire, c'est du coup se former. Donc apprendre vraiment de l'histoire de la civilisation capitaliste et démocratique pour construire des alternatives. Là, c'est la première édition des résistantes, du coup. Et dans la lutte du mouvement kurde, il y a énormément d'importance qui est menée à toutes les personnes qui sont tombées martyrs dans les révoltes et des révolutions partout dans le monde. Et il y a beaucoup cette valeur de résistance en kurde, on appelle ça, on dit Berwedan. Et ils disent une citation qui s'appelle Berwedan Jiyane, ça veut dire la résistance, c'est la vie. Et donc je pense que pour nous, c'était important d'aller à un festival où on prône ce truc de résistance et de résister face à toutes les attaques du capitalisme, à la fois pour détruire nos sols, nos terres, nous voler nos espaces, mais aussi nous voler notre manière de s'organiser, notre capacité à être vivre ensemble, partager des choses, parce qu'on est dans un monde de plus en plus individualiste et libéral. Et ce qui est prôné par les habitants et habitantes du Larzac, c'est recréer des communs, repartager les terres et vivre de manière collective les luttes et habiter dans sa région d'une manière écologique. Et c'est les valeurs qui sont aussi prônées dans le mouvement de libération kurde. Et comme on trouve que ça a du sens de se rencontrer, de faire des ponts, on trouvait que c'était bien de venir parler de ce qui était mis en place concrètement là-bas et comment faire en sorte d'atteindre un peu cet objectif qui est le confédéralisme démocratique ailleurs dans des régions de lutte dans le monde.
Vous venez de vous balader dans le village associatif des rencontres écologistes Les Résistantes 2023. Débats, conférences, tables rondes et interviews sur les luttes locales et globales. Retrouvez ce créneau Les Résistantes sur Radio Larzac tous les mercredis à 21h et en rediffusion le dimanche à 16h. Bonne écoute sur Radio Larzac.